pas que l'histoire se répète. Quand on écrit une histoire, on déteste qu'elle se répète. Quand on lit une histoire aussi, si c'est pour nous servir les mêmes archétypes, les mêmes schémas, les mêmes conflits, merci, mais non merci. Y a rien de pire que la reprise, la reproduction, le bégaiement dans un récit. Y a rien de pire que la copie. Et je suis frappé, moi, aujourd'hui, par cette idée qui consiste à vouloir, dans le grand récit qui est le nôtre, préserver un vieux monde, le répéter. C'est sur cette idée que se fonde toute la rhétorique du chef d'État russe, sur de vieilles idées, de vieilles cartes, de vieilles histoires de plus de 1000 ans, qu'il s'agirait de reproduire, de refaçonner, de répéter. Est-ce que pour autant l'histoire va se répéter? Il faut faire attention, parce que la répétition, vous le savez, c'est pas seulement des faits qui se reproduisent à l'identique, ce qui d'ailleurs n'arrive jamais. Une autre définition de la répétition a quelque chose à voir avec ce qui se travaille, ce qui se prépare, ce qui s'apparente à une leçon. Et dans ce cas-là, c'est pas une mauvaise chose que l'histoire se répète. On peut même imaginer qu'il en va de notre responsabilité, de notre diplomatie. On se rencontre, on échange, on réfléchit, on fait en sorte de désamorcer le pire quand on est au pouvoir, quand on est en charge de l'histoire. On répète inlassablement pour faire advenir un autre monde plutôt que de reproduire l'ancien. Alors est-ce que l'histoire se répète ?
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est romancière, grande figure du roman noir et du thriller qui se joue souvent de la morale. Souvenez-vous d'Un été pourri, du cinquième jour ou encore de L'impossible définition du mal. Son nouveau livre, Les faisceaux de la peur, vient de paraître. C'est l'histoire d'une jeune fille juive confrontée à la montée du fascisme et de l'antisémitisme dans l'Italie mussolinienne. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la guerre, toujours la guerre, décidément on n'y échappe pas cette semaine. Bonjour Mota Bachnik.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Faut-il qu'on ait si peu d'imagination pour que l'histoire se répète, Maud ?
Elle se répète pas, l'histoire. C'est les hommes qui se répètent. C'est les hommes qui ne comprennent pas. C'est les hommes qui n'apprennent pas. Vous vous rendez compte que là, on a évité le coup de Munich. Un coup de chance. On a évité le coup de Munich, pourquoi ? Parce qu'il y a l'Europe. Sinon, est-ce qu'on n'aurait pas eu nos grands gouvernements, nos pseudo-élites, qui se seraient couchés ? Là, il y a... Alors moi, j'étais européenne la première fois. Après, j'ai laissé tomber, je trouvais que c'était un peu mou, comme tout le monde. Et là, je me suis pris une bouffée d'européanisme, parce que c'est peut-être grâce à l'Europe qu'on va se débarrasser du psychopathe de Moscou.
Vous savez, cette guerre en Ukraine, elle vous parle forcément. Je pense tout de suite à l'un de vos précédents livres qui s'appelait Ciel de cendres, qui parlait de l'Ukraine justement. À quel moment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à ce pays, Maud ?
Quand à Paris, il y a eu une partie de la communauté ukrainienne qui est venue à l'Arc de Triomphe pour commémorer la mort ou la naissance, je me souviens plus, de Simon Petliura, qui était un salopard fini, un nationaliste fanatique, qui en 1920 a tué beaucoup de gens, des opposants, des juifs bien sûr, pourquoi pas, ça fait partie du packaging, et nous avons manifesté contre, c'était sous l'ère Chirac, et les flics nous ont virés, ça m'a énervé. Parce que commémorer un assassin, ça m'énervait encore beaucoup plus. Je me suis dit, je vais écrire sur l'Ukraine. D'autant que mes grands-parents paternels sont venus certainement de par là. Donc j'ai appris des choses sur la géographie et l'histoire.
Et vous avez écrit Sous un ciel de cendres. Dans quelle mesure, je me suis demandé, est-ce que c'est aussi sur les cendres que vous écrivez toujours ?
Non, c'est pas sur les cendres. Moi, j'adore la vie. J'adore la vie, mais c'est parce que j'adore la vie que je fais attention aux cendres. Que je ne voudrais pas qu'il y ait des cendres. Et je trouve qu'on s'obstine un petit peu sur la guerre, on s'obstine un petit peu sur la mort. Vous dites, faut pas de répétition. Je suis tout à fait d'accord.
Ça dépend de quelle répétition on parle.
Mais si c'est la répétition du bonheur, j'en suis. Mais on peut pas changer l'être humain non plus. Regardez là. Il aurait suffi que chaque partie fasse preuve d'un peu de bonne volonté. Un petit peu de gentillesse, d'intelligence, de stratégie, pour que ça n'existe pas. Eh ben non. Ils se battent comme on se battait au temps des homo sapiens dans les grottes pour un bout de mammouth.
En tout cas, c'est intéressant parce que dans votre dernier livre, Les faisceaux de la peur, vous nous parlez d'avant-guerre, justement, de la Seconde Guerre mondiale, que vous évoquiez déjà par un prisme tout à fait différent dans la mémoire du bourreau. On parlait d'Europe, effectivement, hier avec le romancier Olivier Guèze. Pour quelle raison est-ce que vous avez choisi de raconter la guerre ou l'avant-guerre du point de vue d'une jeune Italienne, Maud Tabachnik ?
Parce que j'aime l'Italie. J'aime les Italiens, je trouve que c'est un peuple de plaisir, de bonne bouffe, de chansons, j'aime bien ça.
Pas toujours, et vous nous en donnez la preuve dans ce livre.
Oui, mais enfin, attends, vous savez qu'ils se sont bien mieux comportés, les Italiens, que n'importe quel pays d'Europe pendant la guerre. Il n'y avait pas d'antisémitisme en Italie.
Alors pourquoi l'Italie ?
Ben, je vous dis, parce que, je sais pas, ne me demandez pas des choses comme ça, je sais pas, moi. Moi, je pars sur une idée, et je continue. J'ai pas de raison.
En tout cas, la France n'est pas loin dans votre livre, non. Et elle va être pour votre héroïne le théâtre d'expériences multiples. Vous vous souvenez, vous avez encore des images, des impressions de la France occupée, Maud Tabachnik?
Ouais, j'avais 3 ans, quoi. J'avais 3 ans. Mais, bien sûr, j'en ai des images. Vous savez, les enfants de la guerre, ils ont ça, c'est comme si c'était marqué dans l'ADN.
Pensez à quoi, là, tout de suite?
Là, je pense au bombardement. Je pense à quand on changeait de trottoir, eh ben, on avait la vie sauve. Et si on était sur l'autre trottoir, on se faisait embarquer.
Vous l'avez vu, ça?
Bien sûr que j'ai vu. Bien sûr que j'ai vu. Alors, ça m'a formé, hein. Je peux vous dire qu'il n'y a plus grand chose qui m'impressionne.
Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté, vos parents, de cette époque, de ce moment? Comment est-ce qu'ils l'ont vécu?
Ben, on l'a vécu. Moi, j'étais une enfant cachée dans une ferme. Ben, ils l'ont vécu planqué. Planqués comme des voleurs, planqués comme des assassins, et en tremblant à chaque fois qu'il y avait des bruits de bottes dans l'escalier. Je crois que toutes ces générations maintenant, et heureusement pour elles, et je suis ravi pour elles, ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas connaître. C'est pas seulement les enfants de cette guerre-là, ce sont les enfants de toutes les guerres,
oui,
qui sont imprégnés à vie.
Par ces images dont vous parlez.
Par ces images, oui.
Qu'est-ce qui est arrivé à une partie de votre famille, Maud Tabachnik?
Elle s'est évanouie en fumée. Mon père a été interné pour fait de résistance. Ça l'a sauvé quelque part parce que Yves Farge, à la fin de la guerre, l'a libéré. Yves Farge, qui était un type formidable, il l'a libéré. Et nous, on s'est caché. Mais par exemple, mon grand-père a été tué par les Français, fusillé à Lyon. Oui, vous savez, chaque famille juive a un véritable cimetière avec elle.
Et quand vous entendez le mot guerre, ce mot, est-ce qu'il suffit à réactiver en vous cette mémoire? Cette mémoire traumatique, collective?
Pas traumatique. Une mémoire coléreuse.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que je suis en colère que les gens ne comprennent pas.
Votre livre, il s'appelle Les faisceaux de la peur.
Oui.
C'est ça qui vous fait peur aujourd'hui?
Non, les faisceaux de la peur, les faisceaux, c'est à cause de Mussolini, le fascisme, oui. Bon, d'accord. Et c'est vrai qu'on vit dans la peur quand on ne sait pas de quoi demain va être fait.
L'incertitude.
Ouais, l'incertitude. Même les gens qui ne sont pas en guerre, ils craignent le lendemain. On se dit, tiens, je préfère écraser demain.
Alors qu'est-ce qu'on fait face à ce sentiment d'incertitude, Maud Tabachnik? Qu'est-ce que vous faites pour avoir moins peur?
J'ai pas peur.
Jamais?
Non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que quand on a connu la peur que j'ai connue, même enfant, que voulez-vous qui me fasse peur? À part la maladie, ce que je sais, mais enfin bon, ça c'est...
Jamais vous n'êtes paralysé?
Ah non. 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 Et j'ai eu quelques motifs de peur. J'ai eu quelques motifs de peur, parce que je me suis mise dans des conditions, parfois, qui étaient un tout petit peu délicates.
C'est intéressant, en tout cas, parce que ce sur quoi vous écrivez, justement, ce sont des personnages qui ne cèdent pas à la peur, qui résistent, hein, en fait, qui se battent. Quelle fascination, quelle importance est-ce que ça a pour vous de combattre, de battre, de se battre?
C'est la raison de vivre. Ce qui me plaît chez les Ukrainiens, là, en ce moment, c'est ça. C'est leur résistance, ils veulent pas céder. Ils vont se faire piétiner, peut-être, je sais pas. De toute façon, la mort est toujours au bout de la vie. Mais ils restent debout. Alors ça, chapeau, quoi, quand même. Parce que l'ogre de Moscou, il fait peur, hein.
Dans quelle mesure faut-il avoir beaucoup perdu pour être une gagnante?
C'est une bonne question à laquelle ça va pas être facile de répondre. Moi, je suis une gagnante de nature. Alors, je sais pas si c'est ce que j'ai perdu ou pas perdu. Je suis une gagnante de nature parce que la vie, pour moi, c'est merveilleux. Merveilleux. Et de penser que vous avez de tristes cires qui s'emploient à supprimer, ça m'agace.
Celle qui est tout entière dans le combat, vous la connaissez, Maud, c'est la culture et son actualité fleurée. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 3 mars?
Et c'est aussi une femme qui a fait le choix de rester à Kiev. Et pour elle, cette nomination, c'est quelque chose d'extrêmement important, m'a-t-elle dit ce matin.
Un symbole, le festival Sérimania de Lille a annoncé hier qu'il confiait la présidence du jury de sa compétition à la productrice ukrainienne Julia Sinkevich. Cofondatrice de l'Ukrainian Film Academy, cette dernière a été responsable longtemps du Festival international du film d'Odessa, l'un des plus importants d'Europe de l'Est. Sérimania doit s'ouvrir le 18 mars prochain, mais on ne sait pas encore si Julia Sinkevich pourra faire le déplacement.
Mes lecteurs, c'est vrai que souvent ce sont des jeunes gens, parce qu'ils retrouvent, je crois, à l'intérieur de mon travail, un écho de leur propre questionnement.
L'écrivain, essayiste et poète Frédéric Tristan est mort hier matin, il avait 90 ans. Auteur aux multiples alias, Jean-Paul Baron, de son vrai nom, avait été sacré en 1983 du prix Goncourt pour son roman Les Égarés, puis en 2000 du Grand Prix de littérature de la SGDL pour l'ensemble de son œuvre. Il nous laisse une soixantaine d'ouvrages façonnés souvent par les questions de l'identité et de l'imposture.
The situation is under.
Spring en piste, le très pointu festival des nouvelles formes de cirque déploie dès aujourd'hui sa 6e édition dans toute la Normandie. Danse, théâtre, musique, arts plastiques, la manifestation mêle les genres et les disciplines pour proposer une vingtaine de spectacles dont 16 créations. Pourra notamment y voir Out of the Blue, la performance aquatique des apnéistes, chorégraphes Sébastien Davis Van Gelder et Frédéric Vernier. 3, 2, 1, plongée. Et enfin, viva les maestras. C'est aujourd'hui que s'ouvre la phase finale du concours international de chef d'orchestre, organisé pour la 2e fois par le Paris Mozart Orchestra et la Philharmonie de Paris. La compétition voit s'affronter 14 participantes venues de 11 pays différents. Pour se départager, chacune devra notamment diriger pendant 25 minutes un morceau choisi de Berlioz, Louis Farinck ou Mozart. You go, girls! La romancière Maud Tabachnik, invitée de Boomerang ce matin pour Les Faisceaux de la Peur, un livre, on l'a compris, très personnel quand même, d'autant que le rêve de votre héroïne, c'est de devenir écrivain. Ce rêve, quand est-ce qu'il a commencé à germer en vous ?
Il n'y a pas longtemps. C'est il y a une trentaine d'années.
Ouais, parce qu'en fin de compte, vous avez commencé à écrire assez tard, Maud.
Tout à
un moment,
fait.
L'écriture s'est imposée à vous, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ?
J'étais ostéopathe, vous savez, mon cabinet à Paris. J'achète une propriété en Touraine. La campagne, j'ai tout de suite aimé la campagne, j'y connaissais rien, mais j'ai quand même tout de suite aimé. Et j'ai commencé à écrire. Et j'ai trouvé ça tellement passionnant, parce que moi je suis une lectrice, une dévoreuse. même sur ce qu'il y a sur les colonnes Maurice, je lis tout. Je lis toutes les annonces et tout. Donc, c'était normal que j'écrive. Et j'ai pris un plaisir fou. Et ça a commencé comme ça. Et j'ai eu la chance que ça marche, tout de suite.
Vous voulez dire que être lu, être publié, c'était pas forcément l'objectif? L'enjeu, c'était d'écrire.
L'enjeu, c'était d'écrire, de raconter une histoire. Et j'ai raconté 3 histoires avant de donner la une à De Noël. C'est parti tout de suite. Du pot, hein. Vous savez ce qu'on dit, à bonne place, au bon moment. Ça a marché, j'ai continué d'écrire. Et je vis dans l'angoisse permanente, c'est merveilleux, parce que... Avant, on ne sait pas si ça va marcher. Pendant, on ne sait pas si on va y arriver. Et après, on ne sait pas si on va être lu.
Enfin, là, ça fait 30 ans quand même.
Oui, mais laissez-moi quand même mon angoisse.
Vous m'avez dit que vous n'avez pas peur.
L'angoisse, c'est pas la peur.
C'est intéressant parce qu'à vos débuts, Maud Tabachnik, avant de publier votre premier livre, La vie à fleur de terre, vous ne vous êtes pas tout de suite mise à écrire du roman noir. Comment progressivement ce genre s'est imposé à vous ?
Parce que ça m'a paru être plus facile pour m'exprimer. Je pouvais passer... Des idées, mes idées, j'en ai quelques-unes, facilement. Le style me plaisait bien, c'est pas empoulé, c'est rapide, c'est excitant. Moi j'aime le suspense, j'aime les surprises. Et dans un roman noir, vous allez de surprise en surprise.
Mais à vous entendre, il y a quelque chose d'assez jouissif à l'écrire, le roman noir, plus encore que les autres.
Oui. Enfin là c'était bien, là j'ai eu beaucoup de plaisir pour celui-là,
et
le
puis...
dernier.
Quand même, non mais sur le roman noir quand même, il y a aussi l'exploration du mal. L'exploration du mal sous toutes ses formes.
Et il y en a, des formes.
Je pense tout de suite à l'un de vos précédents livres qui s'appelle « L'impossible définition du mal » paru il y a 5 ans. Qu'est-ce qui, selon vous, rend impossible la définition du mal ?
Parce qu'il est multiple, il se voit partout le mal. Je dis pas qu'on ne peut pas le vaincre, justement, si on est courageux, si on a un peu d'empathie pour les autres, et ça je le souhaite quand même, je souhaite que ce soit une qualité qui se partage. On peut le vaincre, on l'a toujours vaincu. On a vaincu Hitler. C'est quand même fabuleux d'avoir vaincu ce type. Et, Et on en a vaincu d'autres depuis, parce que c'est pas le seul grand psychopathe industriel que l'on a connu.
Mais on peut pas le définir.
Non, mais il n'y a pas de définition pour ces gens-là.
Même quand ça fait 30 ans qu'on en explore les méandres comme vous.
Non, on peut pas le comprendre. Moi j'ai, dans mes livres, qui sont pas sur des livres d'histoire, je cherche comment on devient un assassin. Quel est le plaisir de tuer? C'est un plaisir. Hein.
Pourquoi vous réfléchissez là-dessus?
Bah parce que il y en a beaucoup qui aiment ça. Je sais pas.
À commencer par vous, Maud.
Ça, vous le savez aussi.
Quand, pour la première fois de votre vie, le mal vous a-t-il stupéfaite? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous qui faites d'ailleurs exister dans votre dernier livre la figure d'Anna Arendt, qui a beaucoup réfléchi sur cette question du mal.
Alors, vous voyez, Anna Arendt, qui est quand même une des grandes, hein, elle a été très, très vilipendée à un moment, vous savez bien, au moment d'Eichmann, du procès Eichmann, quand elle a écrit la banalisation du mal. Et moi, à aucun moment, je fais partie de cette meute-là. J'ai compris ce qu'elle voulait dire, de ce que c'était la banalisation du mal. Quand on a un Eichmann, un petit gars, complètement lambda, bon, qui est responsable de millions de morts, il le sait, ça le gêne pas parce qu'il a des ordres. Comment vous voulez interpréter le mal ou le bien?
Et puis cette grande réflexion, c'est aussi de prendre conscience du mal qui est à l'intérieur de chacun de nous.
La moitié. Je suis sûr que la moitié de nous est mauvaise. Mais qu'est-ce qu'il faut la combattre, celle-là?
C'est intéressant. Est-ce qu'écrire, c'est faire le bien?
Non, c'est pas faire le bien, c'est se faire du bien.
En exorcisant le mal.
Oui, mais moi, quand je tue un méchant, ça me fait du bien. Hein.
Ah, c'est vrai.
Ah bah ouais,
c'est
ouais.
Pour ça que vous le faites, Maud.
Ouais, mais ils sont pas, je les tue pas tous. Vous savez, regardez souvent, mais je les laisse vivre à la fin parce qu'en fin de compte, c'est aussi comme ça que ça se termine. Poutine, il va peut-être aller à la haie ou un truc comme ça. Il va être jugé, mais il va pas avoir grand-chose comparativement à ce qui est en train de nous emmerder là.
Qu'est-ce qu'il y a de mauvais en vous? Qu'est-ce qu'il y a de malin en vous?
Malin ou mauvais?
C'est à peu près la même chose, dans malin et à mal.
Moi, je dirais malin diabolique.
La diabolique.
Ce qu'il y a de mauvais, c'est que je laisse rien passer.
Rien?
Rien. Je saute sur tout ce qui bouge.
Comment ça se manifeste, ça, dans la vie?
Eh ben, faut pas qu'on me dise un mot de travers.
Moi, je vais faire attention, alors.
Bah oui, mais vous avez déjà fait attention.
Et en écriture, comment ça se manifeste?
Alors, c'est différent, l'écriture, parce que je cherche comment... Je vous explique. Je cherche comment on devient mauvais. Enfin, comment on laisse s'exprimer sa mauvaiseté. Et chacun du petit chef de rayon au général de brigade a un côté mauvais. Et il y a un côté très gentil. Moi, j'ai la chance d'être entouré de gens très gentils. Sinon, je les vire.
Alors, à vous entendre comme ça, et c'est vrai d'ailleurs, hein, que la question du bien et du mal, elle est au centre de tous vos livres, mais il faut quand même le préciser, vous tombez jamais dans la posture moralisante. Et d'ailleurs, vous dites, Maud Tabachnik, qu'il n'y a pas beaucoup de morale dans vos romans. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ah ça, la moraline, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc parce que... c'est, pour moi, la morale, c'est pas ça. La morale, c'est pas tu dois faire ça parce que c'est bien, parce que le curé ou le prêtre ou le rabbin, machin, ça ne m'intéresse pas du tout.
Alors c'est quoi?
La morale, c'est la sienne. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on est, on se regarde dans la glace ou pas, et puis on se dit, là c'est bien ce que je fais ou c'est pas bien. Je sais que j'ai fait des choses qui ne m'ont pas plu de moi. J'y pense. Je peux pas les refaire parce que une fois que c'est fait, c'est fait.
Votre morale, elle tient sur quoi, alors, la vôtre?
Moi, ce que je privilégie, c'est le courage et la loyauté. Ça, le courage, pour moi, c'est la vertu cardinale. Parce que quand vous avez du courage, vous osez vous opposer. Vous osez vous engager, vous osez prendre des risques.
Jamais ça vous a fait défaut?
Oh, probablement que si, bien sûr, je suis pas...
C'est la question que j'allais vous poser.
Je suis pas Wonder Woman. Hein.
Qu'est-ce qu'il y a de plus immoral en vous?
bien sûr que j'ai dû me dégonfler, c'est certain.
Vous avez un souvenir?
Non, pas là. Parce qu'on me reproche de ne pas assez me dégonfler, parce que à mon âge, bon, quand j'avais 40 ans de moins, c'était bien, j'avais ce qu'il fallait pour me défendre. Maintenant, j'ai la même chose, mais en très amoindri, quand même. Donc là, je peux me prendre. Si je sors de ma voiture pour engueuler quelqu'un qui m'a balancé une insulte.
Ah, vous faites ça, vous, Maud?
Oui, monsieur. Je l'ai fait plusieurs fois. Et plusieurs fois, je me suis retrouvé au commissariat.
Ah bah... Vous êtes indigne, en fait.
Oui, je suis... Comment on l'appelle,
Anding? Non, j'oserais pas. J'oserais pas aller plus loin, hein, évidemment. Mais vous savez, plutôt que le bien ou le mal, moi je vous propose qu'on se fasse du bien quand même.
Oui.
Avec un titre qui est tout entier du côté de la vie, un titre que vous avez choisi. Michel Delpech, en 1974, vous êtes sur France Inter avec Maud Tabachnik. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Il était 5h du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Et tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages, j'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Elle n'est pas du tout hirondelle, elle est oie sauvage, le cheveu blanc plumage, la liberté farouche dans le regard, la sagesse aussi parfois, un peu de colère, un peu de résignation, mais toujours cette flamme, ce feu, avec son sweatshirt à capuche en laine. J'avais jamais vu ça de ma vie, la romancière Maud Tabachnik, invitée de Boomerang ce matin pour les faisceaux de la peur, l'histoire d'une jeune femme juive face à la grande histoire et face à son désir aussi. C'est ça qui est passionnant dans le livre, je trouve. Face au fascisme, votre héroïne quitte Florence pour Paris, et là, alors même que les bruits de bottes sont de plus en plus proches, elle découvre un autre monde, un monde parallèle, celui du Paris lesbien et interlope, qui se réunit dans un cabaret nommé le Monocle. Et qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il vous raconte, ce monde de la marge, Maud?
Le monde de la liberté. Ça, c'est ça. C'est à l'époque, moi j'ai connu. J'ai connu ces années fabuleuses de Paris, où on était totalement libre de fumer, de boire, de rigoler, de parler, de sortir.
Pas encore fumer, Maud, on va pas se mentir, mais
dans la rue.
Ouais.
Mais pas à l'intérieur.
Ça dépend, chez nous, on peut fumer.
Ah, sans blague. non, il y avait. Écoutez, vraiment, vous êtes bien trop jeune, Augustin, et moi j'ai la chance de pas l'être et d'avoir connu la vraie vie.
Vous voulez dire la vie horrible que vous nous présentez?
Oui, j'ai connu la vraie vie horrible et j'ai connu après la vraie vie de transgression. Parce que vous savez que transgresser, c'est sympa.
Vous avez connu le Monocle? Non, quand même pas.
Bah bien, attends, le Monocle, il y a pas longtemps qu'il est terminé, hein.
Ah bon?
Oh bah, je sais même pas s'il existe pas.
Alors quelles images est-ce que vous voyez tout de suite? Pensez au Monocle, ce lieu justement de la marge.
Alors c'était marrant parce que c'est plus du tout la même chose. Les femmes étaient habillées en costume.
Oh.
Bon, oui, oui. Alors maintenant, plus du tout. Ça n'existe plus, tout ça.
Elles ont des sweatshirts bleus à quelques ouais.
temps. Marqué futur. C'est fini.
On s'habillait.
On s'habillait. Voilà. On s'habillait même pour aller au théâtre, on s'habillait.
On s'habillait comment?
Ben, on sait pas comment on s'habillait. On s'habillait comme vous voulez, mais on n'était pas tout en jean, on n'était pas tout en sweat, on avait des tenues. Et tout le monde, hein. Homo, hétéro, pareil, tout le monde s'habillait.
Parmi les grandes figures de la communauté lesbienne parisienne, on peut évidemment citer Nathalie Clifford Barnet, que vous faites exister d'ailleurs dans le livre. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Maud Tabachnik? En quoi est-ce qu'elle a compté?
Elle a compté parce que c'est une femme très intelligente, très séduisante, qui a connu les plus jolies femmes de Paris quand elle est arrivée à Paris. Vous savez, dans le groupe des Américaines, Celia Trudstein, Aristoclasse, des femmes riches américaines qui sont venues pas s'encanailler, parce qu'elles s'encanaillaient déjà aux États-Unis. Elles sont arrivées. Et alors moi, j'ai connu une jeune femme, c'est invraisemblable, une jeune femme de 18 ans, 20 ans, qui était conservatrice du musée de Dublin. Et cette femme, elle me disait qu'elle était folle amoureuse de Nathalie Barnet, qui devait déjà avoir à l'époque 80. Je disais, mais enfin, comment vous faites? Je comprends pas. Vous ne pouvez pas aimer une femme de cet âge-là, à votre âge.
Vous voyez, comme vous n'êtes pas transgressive, Maud.
Oui, oui, je suis devenue. Et elle me dit, mais vous faites pas l'amour, quand même. Elle me dit, c'est parce qu'elle ne veut pas, mais moi, je passe mon temps à ses genoux, à la regarder. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, on peut le dire maintenant, parce que maintenant...
Enfin, ce qui est intéressant quand même, c'est que la liberté de Nathalie Clifford Barnet, tout le monde ne pouvait pas se la permettre à l'époque, si que ce soit pendant la guerre ou après, d'ailleurs.
Ah, pendant la guerre, non, sûrement pas. Mais c'est la liberté de l'argent et de la notoriété. Ouais. Hein. C'est une poétesse, c'est une femme qui écrivait, c'est une femme... Vous savez, c'est une femme riche, quoi. Elle était très riche.
Au fond, à quoi on s'expose quand on décide d'assumer un désir qui s'écarte des codes, des conventions, un désir longtemps réprouvé par la société?
Pas grand-chose. Ça dépend où on habite. Si vous habitez l'Arabie Saoudite ou le Yémen, bon, d'accord. Si vous habitez la France, pas grand-chose.
Ça dépend.
Oui, vous tombez toujours sur des...
Ça dépend quelle France.
Ouais, ça dépend de quelle France. Faut pas tomber sur des poivrons, faut pas tomber sur des abrutis, ça on peut pas le savoir à l'avance.
Ça fait beaucoup quand même.
Oui, ça fait beaucoup de monde. Mais vous fréquentez pas des quartiers où vous risquez d'en trouver, vous n'allez pas dans les quartiers islamiques.
Vous vous rendez compte, vous parliez de liberté.
Non mais attends, vous vous rendez compte le nombre d'années que j'ai? Et que je n'ai jamais eu un problème et j'ai vraiment été à peu près partout.
Diriez-vous que vous avez eu de la chance?
Non, j'ai pas eu de la chance. Vous savez, dans les années 70-75, au moment de la 68, j'ai participé à mai 68, bien sûr, pendant 2 mois, bref. Et on avait fait des groupes de femmes pour leur apprendre à se défendre. Et la première chose qu'on leur disait, si vous êtes sur quelque part, que vous marchez et que tout d'un coup vous voyez arriver une bande de loulous, ou deux loulous, ça suffit pour emmerder le monde, allez vers eux, riez, chantez, faisiez un folle, mais surtout ne rasez pas les murs. Vous voyez ce que je veux dire?
Le regard des autres, comment vous l'avez vécu, vous? Comment vous le vivez?
Je peux vous dire quelque chose de grossier?
Ouais.
Je m'en fous du regard des autres.
Ça va, vous n'êtes pas si grossière. J'ai eu peur.
Oh non, quand même.
Comment on fait pour se construire? Parce que ça, c'est une vraie question, quand il existe si peu de modèles et de représentations auxquelles se référer.
Ben, on s'en crée.
Ce que vous avez fait?
Ben oui, on s'en crée. Et puis, c'est tout, on s'en crée. Bon, il y a Jeanne d'Arc, je ne veux pas me familiariser avec Jeanne d'Arc. Pour les femmes, c'est plus dur, hein, parce qu'on n'a pas de modèle.
C'est ça.
Enfin, il y a des aviatrices, il y a eu des résistantes. Là, je travaille sur les résistances en Angleterre, sur les femmes résistantes en Angleterre, sur les femmes résistantes. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de femmes compagnons de la libération qui n'ont pas été...
Non mais c'est passionnant ce que vous dites, parce qu'effectivement, quand on se replonge dans votre œuvre, Maud Tabachnik, mine de rien, vous avez été l'une des premières à faire exister dans des romans populaires des personnages de lesbiennes. Et je pense tout de suite à votre journaliste Sandra Kahn, dans Été pourri notamment, à l'époque. Est-ce que vous vous souvenez de la manière dont ça a été perçu, ça?
Très bien. Je n'ai jamais eu un problème.
Et diriez-vous que vous étiez en train de construire un modèle, justement, une représentation à travers...
Non, je ne représentais rien du tout. je représentais rien du tout. Je faisais ça comme on pouvait parler des Bretons. Les Bretons, ils parlent des Bretons.
Vous voulez dire qu'il n'y avait pas du tout d'acte militant en faisant exister ce personnage?
Non. Ah non, moi je suis pas militante, hein. Je suis pas militante. Chacun se débrouille comme il peut, comme il veut. Quand je dis que je laisse rien passer, ça veut dire que si j'entends quelque chose de malsonnant sur les Juifs ou sur les homosexuels, je ne laisse pas passer.
Mais votre personnage, moi, c'est ça qui m'a intéressé, Sandra Cahn. Elle vivait aux États-Unis, pas en France.
Oui, parce que je connaissais bien les États-Unis. Je trouvais que c'était un pays de liberté. Plus maintenant.
Parce qu'en France, il y avait moins de liberté.
Non, mais c'était plus marrant. Moi, ça me faisait voyager d'aller aux États-Unis. Même si je restais sur place. Moi, je peux voyager avec mes livres, hein. Je peux aller dans le monde entier avec mes livres.
Qu'est-ce que vous voyez, Maud Tabachnik, et ce sera ma dernière question, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez qui aurait été impossible du temps de vos 20 ans?
Pas grand-chose.
C'est pas pareil, quand même.
Pas grand-chose. On n'aurait pas eu des téléphones portables, quoi. Et peut-être que les gens auraient un peu plus lu, parce que quand je les vois dans l'autobus ou ailleurs, avec leur petite bakélite entre les mains et qui regardent pas les autres, et leurs écouteurs sur les oreilles, vous dites, oh, dis donc, qu'est-ce qui communique, les gens?
Ça fait du bien, hein, d'être sans portable, là, comme ça.
Ah ouais, non, tu vois, le portable, le truc sur les oreilles, ils se regardent pas, ils parlent pas, ils rient pas, je sais pas où ils sont. Et bon, ça, c'est grave.
Merci.
Tandis que moi, je parle dans le bus.
On parlait tout le temps. Merci infiniment d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Les Faisceaux de la Peur, publié aux éditions City. Merci à vous et merci à toute l'équipe de Boomerang aussi. Tout de suite, les médias, Eva Rock et son Instant M qui nous parlent quand même de Jean-Pierre Pernaut ce matin. C'est juste après ça.
Enfin ça allait, confiant de peur de rien avant de tomber. On verra bien demain, mais ça plus jamais. J'ai pas l'air de m'en faire, mais si vous saviez comment c'est dans ma tête, ça me fait briller. L'angoisse me fait la guerre et part en fumée. Jour après jour je m'habitue à mes ennemis qui me tuent, et j'apprendrai toutes les vertus. Jonathan, quand je suis déçu, mais grâce à ça, moi j'évolue. Comment faire pour tuer mes démons? Quand maintenant j'ai un enfer, j'ai plus mon nom. Hey, si la magie au père, tout est ton rang.
Pas de gros mots radio, faut qu'on passe. Au lieu d'un nicta, non, je dirais grand bien leur face. Portefeuille achromate, ne voit que violet, vert, ice. J'suis dans la zone, rageux, me suis par la trace. Comment faire pour tuer les haineux? Juste en parlant plus, faux rappeur, non. Pour moi, depuis que j'ai d'albums vendus, très sincèrement, si je m'en vais, je ne reviendrai plus. Ils ont exploré autre chose, me perdre dans le cosmos. S'ils parlèrent dans mon dos couvert de bêtes, mon cher italien, dans leur derrière, j'ferai un don de quelques futurs homo sapiens. J'suis l'avatar du game, je maîtrise les quatre éléments, je rappe, je chante, je produis, j'écris pour les gens. Je sais comment faire pour tuer tes démons.
Les Damso, Démon, il est 9h40 sur France Inter et tout de suite Eva Rock. Ça va Eva?
Ça va très bien, merci Augustin et à demain.
À demain.